Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes en français, qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute notre équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous êtes toujours très nombreux à nous écouter sur cette antenne ou encore en podcast, ou encore même avec votre téléphone. Bienvenue pour notre émission Parole solidaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'André Isidio de Mello. Bonjour.
Bonjour Oscar et merci pour ce privilège encore une fois de participer à cette émission des Paroles solidaires.
Alors vous êtes toujours bienvenu André. Donc je rappelle aux auditeurs que vous êtes directeur d'ADRA France. ADRA c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Et dans le cadre de cette émission Paroles solidaires, vous venez nous parler d'actualité humanitaire. Et là en ce moment il y a une actualité dont on entend parler dans les médias. C'est l'invasion en Afrique de l'Est de criquets. Donc il y a un nuage de criquets qui se balade là de pays en pays. Et évidemment, c'est un vrai problème.
Tout à fait. Depuis plusieurs semaines, d'ailleurs, cet épais nuage de criquets s'est déjà répandu depuis l'Éthiopie et la Somalie jusqu'au Kenya et l'Ouganda, en menaçant aussi même d'autres pays voisins.
Et alors donc, on sait d'où il vient ce nuage de criquets, André ?
Oui, en fait, on estime que ces criquets ont commencé à se multiplier au Yémen, où à cause de la guerre civile, il n'y a pas eu une vraie gestion de la menace. Et donc, ils ont pu se développer, se multiplier et arriver à la Somalie, pays également trop déstabilisé pour avoir une gestion préventive efficace. Donc finalement, nous retrouvons à cette situation-là. Mais ce n'est pas la seule cause que les experts ont identifiée. Cette situation actuelle serait aussi un symptôme, une conséquence d'une série de variations climatiques que nous avons eues en 2019, qui a commencé par une forte sécheresse et s'est achevée avec des pluies et inondations dévastatrices. Et tous ces phénomènes climatiques aussi à favoriser la prolifération des criquets et leurs déplacements.
Donc le climat est aussi en cause, hein, si on comprend bien. Et ce phénomène prend quelle ampleur, André Isidio de Mello ?
Voilà, ça c'est assez impressionnant. Hein. Mais on estime que la nuage des criquets actuellement couvre une surface d'environ 2400 km², ce qui équivaut à la taille du Luxembourg. Avec environ 200 milliards de criquets. Et ça, c'est assez impressionnant quand on fait un petit calcul, parce que chaque criquet est capable de manger à peu près son équivalent de son poids à chaque jour.
C'est qui est l'équivalent de son poids chaque jour.
Tout à fait, donc 2 grammes.
2 grammes, un criquet pèse 2 grammes. Donc chaque criquet mange 2 grammes par jour et ils sont 200 milliards.
C'est qui, si on fait les calculs, nous avons 400 000 tonnes de nourriture par jour. Donc, c'est même difficile d'imaginer 400 000 tonnes de nourriture qui sont consommées avec une vitesse assez rapide. Donc, c'est assez normal de voir pourquoi les criquets se déplacent. Parce qu'une fois qu'ils arrêtent quelque part, tout est mangé très rapidement. Et donc, chaque criquet est capable de parcourir par jour 150 km. Où les nuages des criquets passent, ils ravagent les moyens d'existence des populations rurales.
Donc en fait, on peut considérer qu'ils sont en train de semer la famine partout où ils passent ?
Tout à fait, mais il faut quand même qu'on prenne compte que cette zone touchée par cette menace est déjà une zone assez vulnérable.
Au niveau de l'alimentation ?
Au niveau de l'alimentation aussi. Ce qui est fait, c'est que nous avons aujourd'hui en Éthiopie et en Somalie, les autorités ont décrété l'urgence nationale. Et aussi, c'est important de rappeler que ces phénomènes n'est pas quelque chose d'unique et qu'on a déjà eu d'autres phénomènes comme ça, mais qu'il est quand même très important. Au Kenya, on n'a pas eu une population des criquets aussi importante depuis 70 ans. Et en Éthiopie et en Somalie, on n'a pas vu cette ampleur-là d'invasion depuis 25 ans.
Et alors, quels sont les risques là auxquels on peut s'attendre face à ce nuage de criquets, à cette invasion de criquets?
Bon, les risques, c'est si on n'arrive pas à contrôler ces nuages de criquets, qu'il peut, comme il mange beaucoup et se propage, il peut aussi se multiplier et augmenter beaucoup d'ici quelques mois. Donc, si cela se passe, on pourrait éventuellement, la crise pourrait commencer à affecter d'autres pays, y compris des pays très vulnérables voisins, comme les Soudans du Sud.
Et alors, de quelle manière est-ce qu'on peut contrôler un nuage de criquets comme ça en le gazant avec des produits toxiques pour les tuer?
Vu la taille, ce qui s'est fait actuellement, c'est avec des avions qui passent dessus et jettent les matériels toxiques qui tuent spécifiquement les criquets, mais on peut aussi tuer d'autres insectes. Ils sont assez
sélectifs,
mais ils vont quand même avoir des impacts avec d'autres espèces. Donc, c'est quand même une situation assez grave et on espère pouvoir contrôler assez vite pour que cette crise ne devienne pas une invasion qui dure plusieurs années.
Parce que là, on ne peut pas considérer encore que ce soit une invasion. Pour que ce soit une invasion, il faut que ça dure plusieurs années.
Voilà, en général, on appelle une invasion des criquets quand la crise s'aggrave et continue pour un an ou plus.
D'accord. Et c'est déjà arrivé, ça, des invasions de criquets là, qui duraient sur plusieurs années, justement?
Tout à fait. Au siècle dernier, nous avons eu, je crois, 6 invasions des criquets, dont la dernière s'est produite en 1987 jusqu'à 1989.
Pendant 2 ans?
Pendant 2-3 ans, oui.
Et alors donc, André Zidio de Mello, ADRA, dans tout ça, comment est-ce qu'elle gère la situation sur le terrain?
Donc, nous voyons tous qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut réagir, qu'il faut que la communauté internationale aide les pays concernés. Et ADRA aussi fait partie de cette communauté internationale. Nous avons déjà des réactions, surtout au Kenya, où un projet a commencé pour appuyer des familles. Donc, il y a déjà plus de 200 familles sélectionnées parmi les plus sévèrement touchées qui reçoivent une aide directe pour les moyens de subsistance et après que la situation passe pour recommencer à travailler dans l'agriculture. Nous avons aussi d'autres projets visant les développements agricoles qui visent vraiment fortifier cette production des aliments, des végétaux, des fruits là dans cette région de l'Afrique et de l'Est.
Donc une réponse pour aider directement les personnes qui sont touchées par cette invasion de criquets, qui perdent tout au passage de ce nuage de criquets. Donc une aide directe pour les aider à subvenir à leurs besoins sur le moment et puis à reconstruire en quelque sorte leur agriculture, à la remettre en place. Et puis aussi un travail de prévention pour justement faire en sorte que ces situations ne se répètent pas.
Tout à fait. Il y a ces côtés préventifs qu'on a vu, qui malheureusement n'a pas été bien fait. Il y a les appuis aux familles qui sont touchées immédiatement, qui ont besoin d'un support parce qu'ils ont tout perdu. Et après, il y a une phase de reconstruction dans laquelle on va aider ces familles qui connaissent déjà les métiers, mais à se reconstruire et à pouvoir se relancer dans l'activité d'agriculture.
Et alors donc, dans cette situation, André Zidio de Mello, j'imagine que ADRA France peut lancer un appel aux auditeurs qui nous écoutent pour aider justement à subvenir à ces familles qui sont complètement laissées dans le besoin après le passage de ce nuage.
Tout à fait. Nous avons toujours notre fonds d'urgence qui peut être utilisé et appliqué dans des situations comme celle-ci. Et nous comptons avec la participation de nos auditeurs pour nous aider à pouvoir répondre plus rapidement à des crises comme celle-ci.
Donc, le don peut être fait en ligne.
Tout à fait.
Sur adra.fr. Et il suffit de noter situation d'urgence ou appel d'urgence.
Il y a une option pour les réponses aux urgences, oui, au moment que vous faites les dons.
Très bien. Merci beaucoup, André Isidio de Mello. C'était Parole solidaire. Aujourd'hui, on abordait la question des criquets en Afrique. Vous reviendrez bientôt pour nous reparler d'un autre sujet.
Très bien.
À bientôt.
Parfait.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani, comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire.
C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire.
La vôtre.
Votre histoire.
Ce qui était impressionnant, c'est qu'au lieu que le handicap de ma sœur soit sujet de honte ou d'impossibilité, c'était devenu un sujet de fierté parce que partout où on passait, les gens disaient « Waouh, regarde ce vélo !» Et nous, on était derrière avec mon frère, puis on était tout fiers parce que les gens nous regardaient à cause de cette inventivité de se dire « Bah voilà, on a de la force, on va la mettre au service de celui qui n'en a pas. »
Bonjour à tous, c'est vous l'histoire accueille Gilles Geyser, un éducateur spécialisé devenu aujourd'hui pasteur d'une église d'Aigle, petite ville de Suisse romande. Marié à Fiona, père de 3 enfants, Gilles vient lui-même d'une fratrie de 3, dont une petite sœur que la famille emmenait en balade sur un drôle de vélo, tout simplement parce qu'elle n'était pas comme les autres. Gilles Geyser, grandir aux côtés d'une sœur handicapée est une expérience de vie extraordinaire, vous allez l'entendre. C'est dans nos studios qu'il est venu raconter son histoire, leur histoire en fait. Il répond aux questions de Christine Raymond.
J'avais 2 ans quand elle est née, et puis ce qui touche beaucoup et ce qui a, je pense, vraiment conduit ma vie d'une manière différente, alors je peux dire maintenant que c'est clairement une bénédiction d'avoir eu Anne, elle s'appelle Anne, ma petite sœur. C'est une bénédiction, je pense, sur le sens que ça a donné à l'existence. J'ai eu un frère qui réussissait vraiment, et j'ai toujours un frère qui réussit presque tout ce qu'il fait. Moi, j'ai eu pas mal de facilités dans certains domaines aussi. Et on vit dans un monde qui nous fait comprendre, qui nous fait croire qu'on a de la valeur si on réussit. Ou en tout cas, plus on réussit, plus on a de la valeur. Et puis, dans mon enfance, je vois mon frère qui réussit tout, et puis ma sœur qui réussit presque rien. Dans les valeurs, dans les normes humaines, c'est-à-dire... de savoir marcher, de savoir parler à tel et tel âge, de... Puis tout d'un coup, tout ce qui est dans les normes humaines, eh ben, ça, toutes les réussites, elles tombent. Parce que ma sœur ne parlait pas, parce que les médecins avaient dit qu'elle ne parlerait pas, qu'elle ne marcherait pas, qu'il n'y avait pas d'espoir, quoi, quelque part. Même si maintenant elle arrive à lire, elle utilise le mail, enfin, il y a plein de progrès qu'elle a fait, elle est extraordinaire. Mais n'empêche que dans la petite enfance, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'elle réussit pas, et pourtant on sait qu'elle a de la valeur. Et j'ai ressenti, on ne me l'a pas appris, ce n'est pas mes parents qui m'ont fait un cours un soir, mais c'est ressenti et appris émotionnellement et aussi ouais, de cœur que ce n'est pas parce qu'on réussit quelque chose qu'on a de la valeur. Sinon, ma sœur aurait dû en avoir moins que mon frère, ou moins que moi. Donc je pense que ça m'a appris très tôt à ne pas mettre d'espoir ou de faux espoirs sur la réussite. Je crois que ce que Anne m'a appris, c'est que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il fait. La valeur d'un homme dépend du fait qu'il est aimé. Et je savais que Anne avait de la valeur parce qu'elle était aimée. Peut-être presque plus que nous, quelque part. C'est pas vrai, c'est mal dit, mais j'ai bien vu, même dans mon cœur, j'ai bien vu que j'ai un amour pour ma sœur qui est au-delà, quoi, qui est un peu différent. Ma sœur m'a fait comprendre, et le handicap, le monde du handicap, parce qu'après on rentre dans ce monde-là qu'on voit pas, en fait. J'aurais pas vu ce monde-là sans ma sœur. J'aurais vu le monde de la musique, j'aurais appris à connaître un peu le monde du sport, le monde des études, le monde du travail, mais le monde du handicap, si on n'a pas quelqu'un qu'on aime qui est là, on n'a pas envie de s'y intéresser. C'est dur, c'est un monde difficile, c'est un monde où tout d'un coup... Moi je me souviens encore même, alors que je connaissais ce monde-là, je me souviens de mon premier camp en tant que moniteur pour les personnes handicapées mentales, et le premier repas, je me dis, mais je vais pas tenir. Donc c'est difficile, mais j'aurais pas connu ce monde-là. Ouais.
Et pourtant, tu as choisi cette profession, ouais, d'éducateur spécialisé.
Oui. Je ne sais pas exactement quel chemin ça a pris dans mon cœur. Et je pense que dans les gènes de ma famille, si je dois dire qu'est-ce qui fait notre famille, en fait, c'est le fait d'utiliser sa force pour que l'autre soit plus fort. Ça, je ne dis pas qu'on y arrive, mais c'est une valeur que j'ai profondément ancrée en moi et que j'ai envie de pouvoir donner mieux que ce que je suis en train de donner, si tu veux. J'essaye, mais de me dire, voilà, la force que l'un peut avoir, elle n'a de sens que si elle donne de la force à l'autre, à celui qu'on a moins. Donc, je décide, je savais pas trop quoi faire à la fin de mes études. J'ai fait 3 semaines en lettres. Puis je me suis dit, non, c'est pas ça. Mais il y en avait que 3 semaines pour pouvoir changer. Donc, j'ai vite changé rapidement. Puis, j'ai rencontré quelqu'un qui était en sciences d'éducation. Je me dis, ouais, ça pourrait être vraiment chouette. Et je fais ce métier parce qu'il y a ma sœur. Parce que je vois que j'arrive quelque part naturellement à avoir un amour pour des personnes qui pourraient, qu'elles ont pas de la valeur parce qu'elles réussissent ou pas. Je sens qu'elles ont de la valeur simplement et je les aime. Et puis j'ai beaucoup aimé ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Après, je me suis spécialisé dans l'accompagnement d'autistes adultes. J'ai beaucoup aimé la formation qui a été donnée. Et puis j'ai essayé d'être un bon éducateur, mais j'avais autre chose qui battait dans le cœur, quoi.
Quelque chose qui battait dans le cœur de notre invité, c'était une vocation pastorale à laquelle il se consacrera quelques années plus tard. Son père étant lui-même pasteur, la foi en Dieu faisait partie tout naturellement de leur quotidien familial.
J'ai grandi dans une famille, j'ai grandi dans un, on pourrait dire un lieu, mais c'est pas seulement le lieu, mais c'est vraiment l'habitation où Dieu fait partie de ce monde. Un Dieu auquel on peut poser des questions, parce que le handicap de ma sœur fait poser des questions sur la souffrance, fait poser des questions sur le sens de la vie, fait poser des questions sur à quoi ça sert, quoi. Et ça n'a jamais été des questions taboues. On n'est pas une famille où on a un immense sens de la communication, en tout cas au niveau des souffrances, mais on savait que Dieu était celui à qui on pouvait clairement poser des questions. Pas toujours avec des réponses, mais parfois dans la vie, on a plus besoin d'écoute que de réponses. Donc d'avoir un Dieu qu'on sait, qui nous écoute, qui est là... C'est déjà souvent une sacrée réponse, quoi, à nos vies. Donc, très petit, je vis dans cette atmosphère où la foi est là. Elle n'est pas déconnectée de la vie. Donc, il n'y a pas eu la question, bah tiens, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Parce que je voyais que c'était ça. On sent dans le cœur que c'est juste, je ne sais pas comment expliquer ça. On sent dans le cœur que c'est bon d'avoir un Dieu qui nous aime. Il y a clairement quelqu'un qui nous aime, qui a prévu notre existence, qui est là, que je peux apprendre à connaître. Et très tôt, je me vois encore avoir envie de lire la Bible. Depuis tout petit, quoi. C'est difficilement explicable, mais c'est ça. L'envie de parler de Dieu. Il paraît que je chantais tout le temps quand j'allais faire des courses avec ma mère. Puis qu'il y a quelqu'un qui avait dit à ma maman, parce que je chantais des chants, je sais pas, je pensais que des paroles d'enfant, toutes bêtes, du style Dieu m'aime, ou j'en sais rien. Puis qu'il y a quelqu'un qui avait dit à ma mère, mais vous voulez en faire un curé, madame? Donc, pas loin, quoi.
Ton modèle, ou qui est ton modèle de l'éducateur par excellence?
Alors, c'est mon père. Ça, c'est la première réponse. Sur comment il a été avec ma sœur. L'inventivité que mes parents ont eue, je te donne juste un exemple. Hein. C'est que voilà, normalement, quand on a un enfant handicapé, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. on pourrait rêver de faire des tours en famille à vélo parce que ça fait bien, puis voilà, romantique et tout ce que tu veux. Puis tout d'un coup, il y a l'impossibilité physique. Ben non, ça, on ne pourra pas faire. Je veux dire, objectivement, tu dis, ben non, les tours à vélo avec Anne, c'est plus possible. Et puis, mon père, il s'est dit, OK, on va prendre un tandem. Le problème, c'est que ma sœur était trop petite. Donc, même le tandem, ça ne suffisait pas. Elle n'arrivait pas à atteindre les pédales. Donc, du coup, ils se sont dit, on va faire une triplette. Donc, il y avait un tandem avec mon père et ma mère. Et puis, derrière, mon père a inventé, maintenant, ça se voit assez souvent, une espèce de vélo qu'on rajoute. Il y a juste une roue, ce qui ferme un tandem. Là, c'était un tandem plus ce vélo. Il a inventé une pièce. Il passait bien, bien des heures là-dessus pour que ma sœur puisse faire le tour à vélo avec nous. Ce qui était impressionnant, c'est qu'au lieu que le handicap de ma sœur soit sujet de honte ou d'impossibilité, c'était devenu un sujet de fierté parce que partout où on passait, les gens disaient « Waouh, regarde ce vélo !» Et nous, on était derrière avec mon frère, puis on était tout fiers parce que les gens nous regardaient à cause d'Anne, en fait. À cause de cette inventivité de dire « Bah voilà, on a de la force, on va la mettre au service de celui qui en a pas, ou qu'on a moins. » Et puis au lieu que ça devienne un sujet de honte, eh ben, ça peut être un sujet de fierté parce qu'on a dépassé la difficulté. Il y avait un obstacle. On peut pas le prendre frontalement. OK, ben, alors, on va trouver des solutions pour inverser la tendance. Et puis faire qu'à un moment donné, tout d'un coup, l'obstacle ou la honte devient un sujet de fierté. C'était pas le handicap qui était un sujet de fierté, mais c'était le fait en famille, on a fait un truc que les gens qui n'ont pas d'enfants ou de sœurs handicapées pourraient pas vivre. Et puis c'est fort. Je suis pas sûr que je réponds à ta question, mais
si. Ton modèle de l'éducateur par excellence.
Donc là, c'est papa. Et puis au niveau spirituel, c'est sûr, c'est le Christ, c'est Jésus. Parce qu'il y a personne qui a autant utilisé sa puissance pour la mettre au service de ceux qu'on n'avait plus.
En parlant de ton enfance, de ta sœur, comment elle va aujourd'hui, Anne?
Elle va super bien. Elle est super chou parce qu'elle nous appelle souvent. Elle appelle plein de monde. Elle aime ça. Elle est toute fière parce qu'elle est devenue tante. Et ça a vraiment compté pour elle parce que tout d'un coup, elle change de statut. Elle n'est plus la sœur de Gilles ou la sœur de Christophe, ni la fille d'eux. Elle est la tante d'eux. Et là, on a senti quoi. Elle continue de progresser. Elle prend des cours d'informatique, elle fait de la flûte. Elle est devenue vraiment super autonome. Elle vient encore avec mes parents. Elle travaille dans un supermarché qui font vraiment un beau travail d'intégration des personnes qui normalement pourraient pas avoir ce travail et qui l'ont maintenant. Voilà.
Est-ce qu'elle parle de sa relation à Dieu?
Ah ouais, très clairement. Et puis je pense que c'est aussi en elle qu'on a vu les plus grands changements. Avec le handicap, il y a moins cette barrière entre ce que je pense et ce que je vais dire.
Il n'y a pas de masque,
cette couche,
en fait.
Ouais, il y en a moins. Il y en a quand même, mais elle se transperce plus vite, quoi. Et puis, ça lui arrivait d'avoir des crises de colère. Et puis, ceux qui connaissent le monde du handicap savent que tout d'un coup, toutes les barrières qui font que normalement le comportement, il reste raisonnable, là, elles sont plus là. Et quand il y avait ça qui se passait, elle allait dans sa chambre, au bout d'un moment, on l'entendait prier, elle ressortait, c'était plus la même. Puis elle nous disait, c'est bon, voilà.
L'équipe de Radio Réveil qui signe cette production vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité. Bye bye.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien il vous suffit de composer le 1 712 432 9978. Veuillez également noter que vous pouvez nous écouter à 4h30 sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres. Bien sûr, tout cela en temps universel. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, c'est la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100-77-193, Damary-lès-Lys, Cedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour notre nouveau programme. Au revoir.